fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut exploiter la foule.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu la suis, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ? Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour devant.
C'est la nuit, dans mon lit, il y a 11 heures, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir à tous et toutes, vous êtes bien, c'était un micro non ouvert sur le Canu Info du lundi 7 octobre et vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Et à l'international aujourd'hui, on parlera des émeutes anticolonialistes à Rome et en Argentine de la mobilisation contre la casse de l'enseignement supérieur.
Au national, on parlera ensuite des milliards d'austérité budgétaire mises en avant par le gouvernement Barnier.
Et au local, on aura un petit reportage sur la conférence de la honte sur le sans-abrisme.
Et on finira par un dossier, notre dossier du jour, avec une interview de militants et militantes kanak du MKF. Mais on commence tout de suite cette émission par une petite citation de la semaine.
Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait la citation de la semaine. Alors, je vous cite... Le journal du dimanche du 28 septembre 2024, l'état de droit, ce n'est pas intangible ni sacré. Alors, qui a prononcé cette phrase à votre avis ? Réponse A, Marine Le Pen, dirigeante du Rassemblement National. Réponse B, Bruno Retailleau, notre nouveau ministre de l'Intérieur. Réponse C, le chanteur de Match Retour, groupe néo-nazi lyonnais avec qui Jean-Marie Le Pen chantait le week-end dernier au lieu d'aller à son procès.
La 3 ? Et non.
Sûrement, c'est possible. Mais en fait, il s'agit de Bruno Retailleau dans le journal du dimanche, notre nouveau ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, même Marine Le Pen exprime sa divergence majeure avec notre ministre de l'Intérieur. Donc, on peut dire que Bruno Retailleau est même à l'extrême droite de Marine Le Pen. On en est d'ailleurs à la 4e défection dans le nouveau gouvernement de personnalités qui appelle, entre autres, le Premier ministre à recadrer le ministre de l'Intérieur qui ne fait que reprendre les pires propositions du Rassemblement National. Il veut donc expulser plus et régulariser moins, réformer l'aide médicale d'État, prolonger la durée en centre de rétention administrative jusqu'à 210 jours, conditionner la politique de visa à la délivrance de laissez-passer consulaires et remplacer les associations qui interviennent dans les centres de rétention administrative pour l'aide juridique par l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puisqu'il considère qu'elles sont trop du côté des personnes enfermées, on le rappelle, pas pour un délit, mais pour le simple fait de ne pas avoir de papier. Il veut aussi, Bruno Retailleau, rétablir un délit de séjour irrégulier et renforcer les contrôles aux frontières sur des points névralgiques. Voilà, voilà.
Que des belles choses, on enchaîne avec les brèves.
Et oui, on enchaîne avec les brèves.
Les brèves.
À l'occasion du 7 octobre, les étudiantes de l'Université de Strasbourg se mobilisent en soutien au peuple palestinien et libanais en bloquant l'accès à un bâtiment de la Fac des sciences humaines depuis ce matin. Donc des poubelles et des barrières ont été mises devant l'entrée du bâtiment. Sur le mur, on peut voir un tag « un an de génocide, un an de résistance », ainsi qu'un drapeau palestinien et une banderole « coloniser est un crime, résister est un droit ». Les étudiantes ont indiqué à la presse que les objectifs de la mobilisation sont de défendre le droit légitime à la résistance du peuple palestinien par tous les moyens, y compris armés, et s'opposer à la qualification terroriste des groupes qui prennent part à cette résistance, et d'interpeller l'université et la France sur le droit international qui mentionne ce droit à la résistance. Un rassemblement a aussi été organisé devant le bâtiment à 17h30 pour demander à l'université de Strasbourg de mettre fin à ses partenariats avec les universités israéliennes. Avec plus de 41 000 morts et presque 2 millions de personnes déplacées dans la bande de Gaza depuis un an, on espère que les mobilisations pour la fin de ce génocide se multiplieront et s'intensifieront dans les jours à venir.
Alors justement, ça tombe fort bien, rapport à ces mobilisations, le nouveau ministre très libéral et réactionnaire Patrick Hetzel, qui avait en 2006 rédigé un rapport pour l'enseignement supérieur et la recherche, dont ont ensuite découlé toutes les réformes qui sacrifient l'université publique de la loi LRU à Parcoursup. Eh bien, il a diffusé un communiqué dans lequel il, je cite, « condamne fermement les manifestations et prises de position de nature politique en lien avec le conflit au Proche-Orient. Il y annonce clairement avoir envoyé une circulaire aux directions d'universités pour que ces dernières maintiennent l'ordre dans les universités et surtout, réalisent des signalements aux procureurs de la République dont ils auraient connaissance, tout ça reposant sur le principe de laïcité, bien sûr. Ici, on réaffirme haut et fort, soutenir la Palestine et dénoncer les crimes de l'État d'Israël, ce n'est pas un crime.
Et toujours en bref, on vous en avait parlé il y a 2 semaines dans le Canu Info du lundi. L'entreprise du domaine automobile Valeo a annoncé en juillet dernier la fermeture prochaine de 3 sites menaçant 1200 emplois, dont 350 pour l'usine de Saint-Quentin-Fallavier qui est proche de Lyon. Depuis, les salariés se mobilisent. Il y a d'abord eu un rassemblement le 17 septembre devant le siège de Valeo à Paris. Et depuis lundi 30 septembre, les salariés de Saint-Quentin-Fallavier sont en grève reconductible avec l'objectif de mettre en grève tous les techniciens pour mettre à l'arrêt la production. Une caisse de grève est disponible sur le site Litchi sur Internet pour les soutenir et on continuera à vous parler de cette mobilisation.
Et pour finir ces brèves, en Tunisie, donc, le président Raïs Saïed a été réélu avec le joli score de 89% des voix. C'est pas une blague. Évidemment, ceci n'est pas une grande surprise. La participation a été très faible, à hauteur de 27%. Seuls 2 candidats, qui sont clairement des seconds couteaux, ont été autorisés à se présenter contre Saïed. 15 autres postulants en avaient été écartés. La plupart des dirigeants de l'opposition sont de toute manière en prison. Pour rappel, Raïs Saïed a été élu en 2019 avec 73% des voix et s'est octroyé les pleins pouvoirs à l'été 2021. Passant par un démantèlement des contre-pouvoirs, de tous les contre-pouvoirs, des arrestations de syndicalistes, de militants, militantes, avocats, avocates, journalistes et chroniqueurs, chroniqueuses politiques. Pas de surprise donc, mais un peuple tunisien muselé. Et nous enchaînons de suite avec
la rubrique
internationale.
Et on commence tout de suite avec une information sur l'Italie.
Ouais, c'était même à Rome. Ce samedi 5 octobre a eu lieu une très grosse manifestation en soutien au peuple palestinien et libanais. Au moins 10 000 personnes ont répondu présents et présentes, malgré le contexte ultra tendu, puisque depuis 15 jours, le ministre de l'Intérieur, qui est un proche de la Ligue du Nord, de Matteo Salvini, n'a en effet pas arrêté de répéter que la manifestation convoquée le 5 octobre par le GPI à Rome, le GPI ce sont des jeunes palestiniens italiens, était interdite. Malgré tout, de très nombreuses organisations ont maintenu l'appel. En réponse, dès le 5 octobre au matin, donc samedi matin, de nombreux bus venant d'un peu partout en Italie ont été bloqués, parfois violemment, par la police italienne, avant même d'arriver à Rome. Avant le départ de la manifestation, on pouvait déjà dénombrer au moins 1600 personnes qui ont été contrôlées, bloquées, fichées, et plusieurs dizaines d'entre eux et elles interpellées. Concernant la manifestation en elle-même, le gouvernement de Meloni avait mis les grands moyens avec des blindés, des canons à eau, des forces anti-émeutes en force, hein, qui n'ont eu de cesse d'attaquer la manifestation dès le début et ce jusqu'à la fin. Alors malgré cet effort répressif, la manifestation a tenu, bien tenu, les affrontements ont été nombreux et la police a souvent été mise en échec. Alors la raison principale est bien entendu de mettre la pression sur l'État italien pour stopper son soutien inconditionnel à l'État d'Israël, qui passe notamment par la vente d'armes de l'industrie militaire à l'armée israélienne. Mais il y a aussi la volonté du gouvernement d'extrême droite de faire voter au Parlement un décret qui instituerait 24 nouvelles figures de délit contre les droits de protestation, le droit de manifestation et même des prises de parole. Bref, là-bas comme ici, la fascisation est en cours, mais le mouvement social n'a pas dit son dernier mot.
Et tout de suite, on passe en Argentine.
Oui, mercredi dernier, une grande marche universitaire a rassemblé près de 300 000 personnes devant le Congrès en Argentine et plusieurs centaines de milliers d'autres personnes dans tout le pays contre la casse de l'enseignement supérieur public argentin. Les manifestants, eux, exigeaient une hausse du budget des universités et s'opposaient au projet du président d'extrême droite Milei de mettre son veto présidentiel contre une loi d'augmentation des budgets universitaires face à l'inflation. Alors que le budget des universités a déjà été diminué d'un tiers par Milei depuis son accession au pouvoir et que ce budget n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans. Le principe du veto présidentiel en Argentine, c'est qu'il faut que deux tiers des députés s'y opposent pour l'empêcher. Donc Milei a déjà fait passer sa loi appelée Bases, une version réduite du projet de loi Omnibus dont on vous avait parlé dans une grande interview sur l'Argentine en avril, si vous voulez la retrouver, c'est sur le blog du Canu Info du lundi, c'était l'émission du 22 avril 2024. Donc, une version réduite du projet de loi Omnibus, appelée Bases, est passée. C'est un texte déjà ultra-libéral et austéritaire, avec des baisses d'impôts pour les plus riches, des privatisations d'entreprises publiques, une flexibilisation du droit du travail et de nouveaux avantages fiscaux pour les grandes entreprises. Après ça, il a imposé un premier veto contre une augmentation de 8% des pensions de retraite qui sont pourtant très basses en Argentine. Et maintenant, il veut donc mettre un deuxième veto sur la loi de financement universitaire qui a été votée au Congrès, alors qu'elle représente un coût dérisoire de 0,14% du PIB argentin et qu'elle est bien loin de répondre aux besoins de l'université publique. En avril, plusieurs facultés, notamment celles de médecine et de philosophie de Buenos Aires, se sont retrouvées sans électricité, faute de pouvoir payer les factures. La baisse du salaire réel des enseignants universitaires a atteint 30 points en février 2024. Et il y a au moins 85% des enseignants et 60% des personnels des universités en Argentine qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, du fait que donc leur paye a baissé avec l'inflation. En avril 2024, il y avait déjà eu une première manifestation rassemblant plus d'un million d'étudiants, de professeurs et de personnels universitaires en défense de l'éducation et de l'université publique et gratuite dans 70 villes à travers le pays. En plus de ces manifestations massives, les enseignantes, étudiantes et personnels organisent aussi des cours publics sur le trottoir des différentes facultés pour partager le savoir au plus grand nombre et visibiliser la lutte pour une université gratuite, publique, de qualité et ouverte à toutes et tous. C'est une méthode traditionnelle de défense de l'éducation du mouvement étudiant et enseignant en Argentine. Donc non seulement à Buenos Aires, mais dans plein d'autres villes du pays, y compris plusieurs villes où Milei avait eu de ses meilleurs scores électoraux, la mobilisation a été massive. À Cordoba, par exemple, il avait récolté 75% des votes en 2023 et il y avait 70 000 personnes qui sont descendues dans la rue ce mercredi. Les revendications concernent donc l'enseignement supérieur, mais vont au-delà, puisque de toute façon, Milei s'attaque à tous les conquis sociaux sous l'œil approbateur du FMI. La manifestation de mercredi comptait aussi des mots d'ordre contre l'inflation, contre les licenciements, contre les privatisations et contre toute une série d'autres attaques sur le secteur de la santé, sur les retraites et sur les travailleurs. Face à ces attaques, de nombreux secteurs de la base des syndicats défendent l'urgence d'unir les revendications et de se joindre à la mobilisation du secteur de l'éducation, par un appel par exemple à la grève générale et à la mobilisation massive. Mais pour l'instant, les principales centrales syndicales du pays, la CGT et la CTA, qui ont pourtant un gros pouvoir de mobilisation, n'ont exprimé qu'un soutien timide à la journée de mobilisation universitaire, à suivre donc si cette mobilisation prend de l'ampleur et s'étend véritablement à d'autres sujets, entre autres et par d'autres moyens, notamment la grève.
Première petite pause musicale avec Chocolate Remix de Otario.
Todavía fiesta y eso te molesta. Estás cabrón porque bien sabes que mi fiesta te la peta. Estás cabrón porque nunca aprendiste lo que es diversión. Estás cabrón porque tu vida entera es un papelón. Estás cabrón porque no sabes ni para qué viviste. Estás cabrón porque tu vida
entera puede ser un chiste, pero ni eso, porque no tienes ni un gramo de gracia. Menos onda que el cabello de las que vinieron lacia, menos onda que las drogas que venden en la farmacia, que entregarte solo con tu voto en plena democracia. Se hacen los picantes y tienen menos calles que pantufla, y me toco una teta porque dicen que son muy fuertes para ser relevantes. Pagan Twitter y no tienen ni un amigo, solo un líder delirante que se cree el elegido. Supieran repitiendo un cuento, lloran y se ponen violentos, piden libertad a los presos del resentimiento. Son capullinos de alelí, son tremendos los vi, se creen que tienen pedigrí. De esto yo ya me aburrí, voy a echarle un vi. Y es que ahora llaman puto de sí. Se dicen gente de bien y bien que les gustaba ver cómo torturaban, robaban nietos, la abuela luchaba. Yo soy muy tranquila y hasta que me pusieron brava no sabían que se pica si la torta con el micro te la clava. Este mensaje para todos los otarios, conservan el capricho, flasha revolucionario. Dejen de pensar como empresarios si son proletarios, que se creen que son libres, pues llamarse liber. Otario, 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 que se creen que son libres, pues llamarse liber. Otario, 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 que se creen que son libres, pues llamarse liber. Les gusta trabajar para el patrón de lunes a domingo. Yo quiero estar con mi chorro tomando cerveza en el chiringo. El último orejón del tarro en la fiesta capitalista. Sueña con agarrar un BMW doble por la autopista. Despertate, papi, que es hora de ser realista. Y es que no es fiesta posible bajo un gobierno fascista. El libre mercado no va a hacerte millonario. Solo serán libres para bajar tu salario y para que trabajes todos los días del calendario. Pero sin quejarte porque viene el comisario. Otario, 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 que se creen que son libres por llamarse liber. Otario, 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 que se creen que son libres por llamarse liber.
Vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2. On vient d'écouter Otario de Chocolaté Remix, une chanteuse argentine qui fait du reggaeton féministe. Et c'est toujours le Canu Info du lundi 7 octobre. Et on va passer à la rubrique.
National.
Et au national, on parle de l'austérité du gouvernement Barnier.
Oui, le gouvernement devrait présenter jeudi 10 octobre son projet de loi de finances pour l'année 2025. En substance, une baisse historique des dépenses publiques la plus violente jamais enregistrée. En cause, le gouvernement qui affiche une volonté de réduire le déficit public, donc c'est la différence entre les dépenses et les recettes de l'État qui devrait avoisiner les 6% en 2024. Le seul problème, c'est que la cause de ce déficit, c'est essentiellement due aux politiques menées par Macron depuis 2017. Première cause, la baisse des impôts sur la bourgeoisie, notamment avec la fin de l'ISF et de la flat tax, qui est une niche fiscale permettant aux riches de payer moins d'impôts sur les dividendes. La deuxième cause, c'est la baisse des impôts sur les entreprises détenues par la bourgeoisie, avec par exemple la baisse de l'impôt sur les sociétés, qui est passé de 33% en 2017 à 25% en 2022. Et la troisième cause, c'est le soutien structurel du régime Macron au patronat, qui a empêché les hausses de salaire. Or, moins de hausses salariales, c'est aussi moins de cotisations sociale et moins d'impôts derrière. C'est un phénomène qui est même reconnu par la très conservatrice Cour des comptes. Le gouvernement prévoit donc 40 milliards de coupes budgétaires dès l'année prochaine et 20 milliards de hausses d'impôts, mais le problème c'est qu'une bonne partie de ces hausses d'impôts n'a pas été précisée par le gouvernement. Alors au programme, on a une baisse des dépenses de la sécurité sociale, parce que c'est toujours dans la sécurité sociale que le gouvernement tape en premier, à hauteur de 15 milliards d'euros, à commencer par le report de la revalorisation des pensions. Les retraités seront donc l'année prochaine encore plus pauvres. Autre point, c'est la baisse des dépenses des collectivités locales pour 5 milliards d'euros, qui s'ajoutent aux 10 milliards d'euros dont, qui, que le gouvernement a déjà coupé dans les budgets de l'année 2024 et aux 16 milliards d'euros que le gouvernement a gelés pour l'année 2024. Cette campagne austéritaire est donc totalement inédite, car même en 2011, le gouvernement Fillon ne taillait dans les dépenses publiques que de 11 à 12 milliards d'euros par an. Pour faire passer la pilule, le gouvernement annonce des mesures cosmétiques, comme la hausse de l'impôt sur le revenu des très riches ou les taxes sur les billets d'avion, dont les montants sont très incertains et surtout très faibles. Ces minuscules hausses d'impôts donnent en réalité l'illusion que le patronat et la bourgeoisie participent aux efforts, comme le fait le prolétariat, mais c'est surtout en fait une occasion pour eux de faire d'une part faire payer les plus pauvres et surtout de se créer de nouvelles opportunités de profit en détruisant les services publics et la sécurité sociale. En clair, payer quelques milliards pour le patronat pour en sauver beaucoup plus en profit derrière. Mais surtout, le gouvernement Barnier va enclencher un cycle austéritaire sans précédent. Selon un document que l'équipe des Canu Info du lundi a obtenu copie, et qui est intitulé « Cadrage économique et financier du plan budgétaire et structurel national de moyen terme », un titre un peu ronflant, pour dire qu'en fait c'est les projections budgétaires du gouvernement qui sont envoyées à Bruxelles, et qui est dans un document qui n'est toujours pas rendu public. L'austérité devrait durer au moins jusqu'en 2028, avec des coupes de 39,2 milliards par an en moyenne.
Et oui, le Canu Info du lundi a des sources de malades.
Premier sur l'info.
C'est donc une violente cure d'austérité, trois fois plus violente que celle imposée par Sarkozy après la crise financière. Mais tout cela n'est pour l'instant qu'un projet, et il reste encore à la rue de mettre en échec ce gouvernement violent.
Et puis on continue donc avec notre rubrique...
Locale.
Locale.
Local.
Local. Et avec un sujet donc sur la conférence qui a eu lieu vendredi soir, donc c'était vendredi 3 octobre, le PCF et le NFP organisaient à la mairie du 3e arrondissement à Lyon une conférence qu'on pourrait appeler la conférence de la honte, avec en présentiel et invité Yann Brossa, donc sénateur PCF de Paris et adjoint au logement à la mairie de Paris, Marie-Charlotte Garin, députée Europe Écologie Les Verts de la 3e circonscription du Rhône, Boris Miachon de Bar, élu PCF Ville de Lyon, mais aussi et surtout, c'est un peu lui qu'on venait chercher, Renaud Père, vice-président Europe Écologie Les Verts de la métropole de Lyon et de Grand Lyon Habitat, le principal bailleur social de la métropole. Le nom de cette conférence publique, alors c'était « Sans-abrisme 2. Que peut le politique ?» Alors, organiser et surtout intervenir en tant qu'invité dans une conférence ayant ce titre-là et étant soi-même, je parle de Renaud Père, hein, responsable des politiques répressives et antisociales locales à l'échelle de la métropole, ça a beaucoup énervé les collectifs de soutien aux personnes à la rue, comme le DAL 69, le collectif Solidarité entre femmes à la rue, les gens expulsés de squats sans relogement, alors que c'est Grand Lyon Habitat ou la métropole qui en est le propriétaire. Du coup, ces collectifs ont décidé de gâcher un peu la fête et rappeler la responsabilité évidente des pouvoirs publics locaux dans le sans-abrisme. Et puisqu'ils n'ont décidément peur de rien, ces élus sont arrivés 20 minutes en retard car ils sont allés se pavaner dans le square du Béguin où dorment toutes les nuits 200 jeunes mineurs isolés étrangers censés être hébergés par la métropole qui leur fait vivre un calvaire en refusant d'accepter leur minorité, les forçant à vivre à la rue et à faire des recours qui sont d'ailleurs très majoritairement victorieux. Comble du cynisme, certains d'entre eux, ces mineurs isolés étrangers, à la rue, ont été interdits d'entrer dans la salle de la conférence sous couvert de jauges trop élevées. Il a quand même fallu gueuler un bon coup pour que certains d'entre eux puissent rentrer et s'exprimer. Alors on va vous passer tout de suite des extraits qui ont été enregistrés vendredi soir, hein, des débats très houleux qu'il y a eu à l'intérieur. Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer l'enregistrement donc de l'intervention des mineurs à la rue, mais voici quand même ce qu'on leur a dit. D'abord en lisant un tract, puis par de nombreuses interventions et certaines des réponses des élus, toujours aussi bon en langue de bois. Alors le premier extrait, c'est quelques éléments du tract qui a été lu en introduction par les militants et militantes intervenus pour contester cette réunion publique.
Ils ont pas le droit d'avoir les pancartes en fait.
C'est un débat. sont vides et qui vous appartiennent. Enfin, je le rajoute, mais c'est pas en train. Payez des assistants et assistantes sociales dans vos services plutôt que des vigiles dans les NDMS qui servent à câbler les femmes mises à la porte et indignées par vos politiques. Arrêtez de vous rendre au Mipi Macan, marché immobilier où les promoteurs et les actionnaires dictent leurs exigences aux élus, où l'entrée coûte entre 1200 et 2000 euros par personne. La participation de la métropole à ce salon coûte au moins 1,38 million d'euros pour 3 ans à la métropole. C'est vrai que boire du champagne avec des investisseurs, ça vaut son prix. On se demande aussi combien ont coûté les barrières anti-SDF que vous avez faites installer autour de vos locaux après avoir fait expulser par la police toutes les personnes qui trouvaient refuge. Construction de bureaux, hôtel de luxe dans le parc Blandan, abri à vélo plutôt qu'hébergement, il faudrait peut-être revoir vos priorités. Vous dites vous battre pour faire remettre sur le marché les bâtiments vides du secteur privé. Comment ? En envoyant des courriers aux propriétaires et même des relances ? Le capitalisme tremble et la propriété privée est au bord du gouffre. De toute façon, 70% des logements vides à Lyon appartiennent au secteur public. Les élus, comme vous, M. Père, Blandine Collin et François Desmouniaux, siègent dans les conseils des bailleurs sociaux dont des milliers d'appartements sont vides. Grenouille Habitat, d'ailleurs, qui était le propriétaire de l'annexe de l'ECG, qui a expulsé hier sans reloger les personnes qui y logeaient, hein, Grenouille Habitat, procède à énormément d'expulsions, tout comme la métropole. Cette semaine encore, donc, le CG a été expulsé par GLH. Renaud Père n'a même pas, vous n'avez même pas daigné donner aux habitants la date de l'expulsion. Et 5 habitants ont été interpellés par la police aux frontières. Pour parler justement de la situation des sans-papiers juste avant que vous arriviez, il y a eu une intervention là-dessus. Et ben voilà ce que ça crée aussi d'expulser les squats dont vous êtes les propriétaires, c'est qu'il y a des gens qui se font interpeller par la police aux frontières et qui ensuite ont des OQTF, des obligations à quitter le territoire français. Les élus seront complices de la répression et du racisme au départ. Et on assume ces mots. Enfin, quelle lutte de gauche ? C'est pas tout à fait terminé. À l'échelle locale comme nationale, vous êtes là pour pacifier et étouffer les mobilisations, faire croire au dialogue social et convaincre que vous êtes dans notre camp. Que cela soit bien clair, vous êtes a priori du mauvais côté de la barricade. Ce genre d'événement sert juste à justifier vos politiques indignes. Si les politiques que vous menez étaient partagées, étaient portées par l'extrême droite, on crierait au racisme ou au sexisme. Mais vous mettez assez de budget dans la communication pour vous en sortir. Donc votre seule question c'est, n'avez-vous pas honte, même pas un petit peu ? Pourquoi c'est pas si compliqué ? N'expulsez pas les squats et les logements, n'aggravez pas le problème. Si un bâtiment est resté vide assez longtemps pour être squatté, il est légitime de l'occuper. C'est tant pis pour vous. Réquisitionnez les logements vides. Enfin, mettez à disposition le bâti, les équipements municipaux et métropolitains s'il le faut pour mettre à l'abri les personnes à la rue, et vous allez pouvoir le faire. Pensez des vraies politiques de logement, de répartition des richesses et de lutte contre les inégalités. Pas de cadeaux aux promoteurs, aux entreprises. On veut pas d'innovation sociale, on veut des logements pour tous et toutes. Ne dénigrez pas les luttes, les personnes concernées savent mieux que vous ce dont elles ont besoin et ce qui est juste. Écoutez-les au lieu de leur expliquer la vie et d'établir un faux dialogue. Lutter contre l'État, pas contre les pauvres. Expulsion, restriction, contrôle. On vous rappelle que le but c'est de lutter contre la précarité, la misère, les gens qui sont à la rue et pas d'imiter ce que fait le gouvernement. Choisissez donc votre camp et c'est signé celles et ceux qui n'en peuvent plus de vous. Voilà.
Alors voilà pour le premier extrait, hein. Vous venez donc d'écouter une lecture du tract qui a été distribué ce soir-là, vendredi, aux personnes présentes dans la salle et aux élus. Et le deuxième extrait, c'est un petit florilège des interventions de Renaud Père, Yann Brossa, Marie-Charlotte Garin et la réponse ou des interventions de militants et de militantes lors de cette soirée avec des moments d'ambiance un peu tendus. Vous allez l'entendre.
C'est pas comme ça qu'on va avancer. Moi, je remarque une chose, et franchement, on peut se le renvoyer à la figure, c'est que, évidemment, depuis 7 ans de gouvernement macroniste, on oppose les classes populaires. C'est ça qu'on est en train d'abolir. Et je vous invite, tous celles et ceux qui ne siègent pas dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux, d'entendre ce qui commence à se dire. Et des choses qu'il faut vraiment, qui j'espère vont très vite se calmer, qui sont des choses affreuses, qui sont dites sur les personnes à la rue, sur lesquelles précisément, c'est l'inverse de ce qu'on a entendu ce soir, hein, donc la vérité doit se trouver entre les deux, que la ville de Lyon, la métropole de Lyon, ne fait que de la lutte contre le sans-abrisme et ne fait pas assez de choses. Quand on commence à dire cela, alors là, ça veut dire qu'on a définitivement. Je le dis parce que ça a été dit par certains d'entre vous, et c'est très bien, ça n'a pas été dit par vous. Ce qu'il faut arriver à faire aujourd'hui, c'est avoir une méthode pour répondre à la politique. Je vous conseille, et je l'ai dit, à chaque fois que j'ai reçu des collectifs, oui, je pense que nous n'allons pas assez loin. Voilà. Donc, oui, je pense qu'il faut aller plus loin pour aller autrement. Mais par contre, comment on arrive à agir? Là, il y a des questions. Précisément, Pierre Adrien, quand il évoque la nécessité qu'il y ait plus de logements brousses, on sera tous un peu d'accord. Mais derrière le pouce, on s'en fiche, c'est l'idée de plus de logements sociaux pour les étudiants. Mais moi j'ai envie de dire très clairement, quand on met 40 millions d'euros annuels pour acheter des immeubles, c'est quand même bien ça qu'on fait. Et quand effectivement on le fait pour Pierre Loin, quand on le fait rue Pasteur, quand on le fait dans d'autres années, le but c'est de sortir du bloc, c'est de sortir. Désolé, vraiment désolé que nous n'ayons ouvert que 102 places. Oui, je le suis. Je pense que nous devons aller plus loin. Simplement, si vous ne voyez pas qu'on est le seul lieu en France, en fait, le combat politique, celui que vous menez en attaquant le NFP pour certains d'entre vous, eh bien, ce combat politique, il est perdu pour les personnes qui sont ici concernées. Parce que moi, il me semble qu'il y a quand même deux solutions à activer le plus vite possible. Oui, la régularisation. Oui, parce que sans quoi, sans la régularisation, il n'y aura jamais aucune solution dans ce pays. Mais la régularisation, vous avez beau nous insulter, ça n'est ni les élus d'arrondissement, ni les élus de la ville, ni les élus métropolitains qui peuvent la décider. Et la deuxième solution, c'est le logement et le logement social par-dessus. Je vais vous dire une chose, si on regarde, bien sûr vous pouvez dire non de la tête, mais si on ne fait pas plus de logements dans ce pays, dans cette métropole, et notamment lorsque nous avons voulu préempter, nous l'avons fait, 40 millions d'euros annuels pendant 3 ans de suite, lorsque nous préemptons des immeubles en plein cœur, exemple, le Pierre-Roi, et bien précisément, c'est ainsi qu'on trouvera une solution. Oui, moi je pense effectivement que le gouvernement nous met dans un piège parce qu'il vous monte contre nous. Et oui, il y a un piège, c'est si on attaque le logement, alors il n'y aura jamais de solution.
Continuez le débat, s'il vous plaît. Si tout le monde prend la parole de manière anarchique.
Je crois qu'on n'a pas du tout la même conception de la. Et ça, je crois que j'en suis même sûr. On n'a pas la même conception de la démocratie, parce que quand je parle. Quand
nous parlons du débat.
C'est qu'on peut faire semblant de s'opposer. Mais en réalité, on n'y arrive que si on est capable de se mettre ensemble. Parce qu'on a bien sûr face à nous l'État. On a face à nous la préfecture. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. Ils ont aujourd'hui en France l'opinion publique avec eux sur ces sujets. Et donc si nous on se pourrit, si nous on se fout sur la gueule, alors même qu'on est minoritaire dans l'opinion sur ce sujet, on ne s'en sortira jamais. Et donc la seule solution, c'est qu'on soit capable de travailler ensemble, ici, comme dans toutes les métropoles où la question se pose. Je vais vous dire, je suis au Sénat, Retailleau. Je l'ai subi pendant tout le débat sur la loi immigration. Et donc je sais très bien quelles sont ses intentions. Je sais quels amendements il a fait voter au Sénat. Et donc si face à ces gens, nous on se pourrit, mais eux ils sont heureux. Eux ils peuvent sortir le popcorn. L'extrême droite se rit de nos divisions. Elle s'amuse de nos divisions. Elle se nourrit de nos divisions. Et donc, si on n'est pas capable de bosser ensemble, on ne s'en sortira jamais.
Et donc, c'est ça la question qu'on doit se poser.
Comment on est capable de mener ensemble des combats de demain?
Vous pouvez expliquer. Nos divisions,
il y a deux. Je vous vois, je vous connais.
Monsieur qui crie depuis tout à l'heure, et du maire et du maire, le pouvoir de réquisition du maire, c'est seulement s'il y a péril. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous pour moi. vraiment un enfant de 3 mois là qu'il y a péril. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Sauf que là, on ne parle pas de péril, malheureusement, à part crier. Là, je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie de s'écouter. On va reprendre.
Et des bâtiments publics.
Levez la main si je veux reprendre la main. Posez une question.
Bonsoir à tous. Moi, je suis militant au Parti des Travailleurs et par ailleurs, je suis enseignant dans une école qui a effectivement eu des gamins à la rue. On a organisé avec des enseignants, des militants, parmi lesquels des militants du PCF que j'ai croisés ce soir, des rassemblements particuliers à la préfecture, des rassemblements à la mairie de Lyon, pour exiger du maire qu'il utilise son pouvoir de réquisition. Je vais y revenir, il a son pouvoir. Je vais y revenir, je vais vous lire les textes, c'est aucun problème, aucun problème. Le maire lui-même, son exécutif, Madame Popov, qui est maintenant aux affaires dans l'exécutif municipal, elle-même nous a dit oui, nous avons le pouvoir. Mais on ne le fera pas. C'est elle qui nous l'a dit, excusez-moi. Donc aujourd'hui, vous nous dites que peut faire le politique. Moi, je vois deux solutions, on demande des solutions concrètes. La première solution, déjà, c'est vous qui êtes aux affaires, arrêtez les expulsions, ça a été dit avant moi. La loi qu'on va déposer dans une assemblée ou par ailleurs, je ne sais pas comment vous allez faire adopter, mais à mon avis, vous n'y arriverez pas. Quand on sera aux affaires, bah, s'il se passe ce qui s'est passé en juin, je ne sais pas quand ce sera. Mais maintenant, on a le gouvernement Barnier, Macron, Retailleau. On sait que ça va taper fort. Donc moi, je me tourne vers d'autres qui ont aussi le pouvoir, c'est les élus locaux. Oui, oui, non, je tape là, je propose qu'on agisse, justement. Voilà ce que dit le Conseil d'État, je cite son arrêté du 29 décembre 97, qui cite « Le maire peut prononcer, grâce à son pouvoir de police, la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri, en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales. » On a présenté cet arrêté. On nous a répondu à la mairie de Lyon. Oui, vous avez raison, ça existe. Alors, oui, ça existe quand il y a une urgence, quand il y a un péril. Mais c'est quoi d'autre que le péril, les jeunes qui ne peuvent pas passer leur diplôme? C'est quoi d'autre que le péril de mes gamins dans les classes qui ont 7 ans et qui vont passer l'hiver à la rue? C'est quoi d'autre que du péril? Mais aujourd'hui, il y en a qui ont le pouvoir entre les mains, qui sont de gauche et qui n'y vont pas. Donc moi, je pense qu'il faudrait une unité pour dire le maire de Lyon, le maire de Villeurbanne. Je rappelle quand même qu'il y a 25 000 logements vacants à Lyon selon l'INSEE. Il y en a 7 000 à Villeurbanne et d'autres. Donc je m'arrête là-dessus. Moi, je propose que l'unité que vous proposez à la tribune, elle se réalise sur ça. Nos expulsions, réquisitions par les maires des logements vacants.
C'est juste pour rappeler que ce n'est pas que le moment des élections, qu'on le verra avant même d'être député.
C'est vrai, je vous reconnais.
Était déjà militante et très proche des collectifs J'arrive sans toi, Solidarité Femmes à la rue.
Voilà, donc vous venez d'écouter plusieurs extraits de ce qui s'est passé pendant cette soirée, des échanges avec donc les élus qui venaient parler sans-abrisme, que peut le politique alors qu'ils sont partis eux-mêmes responsables du sans-abrisme à Lyon. Comme vous l'avez vu, c'était un peu houleux, mais rien de neuf sous le soleil de leur côté. C'est pas de leur faute, le problème c'est l'État, c'est le gouvernement, ils en font déjà beaucoup, nous on fait le jeu de la division et du gouvernement, bla 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 bla. Voilà, donc nous, notre réponse, elle reste la même, hein, vous l'avez compris, il y a bien deux camps, il y a celui des expulseurs et celui des expulsés, et comme c'était écrit dans le tract, une barricade, ça n'a que deux côtés, et on est visiblement pas du même. Voilà pour ça, on va vous passer, avant d'arriver à notre dossier du jour avec des militants et militantes du MKF, on va vous passer une musique qui s'appelle Justice Coloniale, c'est eux qui nous l'ont, EL qui nous l'ont conseillé, par le groupe One. Et c'est parti. toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi. Et nous passons donc à notre dossier du jour avec trois militants et militantes du MKF qui sont dans le studio. Alors bonsoir à tous les trois déjà, merci d'être présents et présentes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et aussi et surtout nous expliquer ce que c'est que le MKF, s'il vous plaît?
Bonjour, ben moi c'est Joya.
Bonjour, moi c'est Isabelle.
Bonsoir, et moi je m'appelle Poulou. Donc tout d'abord, on aimerait vous remercier Radio Canu de nous accueillir ici, de nous laisser un temps de parole pour dire ce qui se passe au pays. Et merci de nous soutenir pour la lutte indépendantiste et d'essayer au maximum de propager le message. Donc on va nous présenter MKF, donc c'est le mouvement des Kanaks en France, c'est une association. On est présente dans différentes régions ici dans la France hexagonale, dans différentes villes comme à Tours, à Paris, à Montpellier, à Lyon, à Grenoble. Et on a deux gros objectifs au sein de MKF. Le premier objectif, c'est d'informer sur ce qui se passe en ce moment en Kanaky, de montrer les images et d'expliquer aussi pourquoi il se passe ça. Donc il y a tout le travail d'expliquer l'histoire, le contexte. Et notre deuxième objectif, c'est d'aider les prisonniers et prisonnières. Donc que ça soit financièrement ou bien psychologiquement aussi.
Ouais, alors ça justement, on y reviendra tout à l'heure sur les prisonniers et prisonnières. C'est bon pour la présentation ? Ok. Est-ce que vous pouvez revenir pour contextualiser un petit peu la situation actuelle ? On en avait déjà parlé il y a quelques mois. Les raisons justement de l'embrasement de ces derniers mois, pourquoi est-ce que ça a pété un peu en Kanaky ? Quelles sont ces raisons ?
Ok, bah tout d'abord pour vous contextualiser un peu le tout, il faut savoir en Calédonie, de base c'est une colonie de peuplement, ça fait 71 ans que nous sommes colonisés, et cette colonisation-là, il y a eu plusieurs révoltes, notamment celle d'Ataï en 1878 et celle des années 80. Suite à cela, il y a eu plusieurs accords qui ont découlé, notamment qui est pour nous les indépendantistes qui est important, c'est celle de Nain Rochelet-Ville, où on reconnaît les victimes de l'histoire, ça veut dire toutes les personnes qui ont été déportées en Nouvelle-Calédonie, notamment les communards, les Algériens et tous ceux de première révolte dans tous les pays colonisés par la France.
Okay.
Voilà. Ensuite, suite à cela, il y a eu les accords de Matignon et les accords de Nouméa en 98, qui prévoyaient trois référendums dans 20 ans, qui devaient commencer entre 2014 et 2018. Voilà. Suite à cela, l'État en 2017, elle est sortie de son impartialité, elle s'est rangée du côté des loyalistes. La loyaliste, c'est la droite locale, c'est la droite fasciste qui a un level un peu plus haut que le Rassemblement National ici en métropole. Ensuite, il y a eu le premier référendum en 2018. Il y a eu 43% de oui. De oui pour l'indépendance. Suite à cela, il y a eu le deuxième référendum en 2020 où il y a eu 47% de oui. On voit une augmentation. Notamment, faut savoir que la population kanak représente à l'heure actuelle 40%
de la population totale.
Oui, ouais. De la population totale.
C'est bien une politique colonialiste de la France. Tu parlais d'une colonie de peuplement. Dans les années 60-70, la France a massivement envoyé des métropolitains pour essayer de peupler, de plus peupler la Nouvelle-Calédonie, la Kanaky, de métropolitains que de Kanak. C'est un peu ça la logique.
Oui, c'est ça. Notamment avec la directive, la lettre de Pierre Messmer, qui était l'ancien ministre d'Outre-mer, ou qui prévoyait qu'on faisait venir des femmes de métropole pour pouvoir rééquilibrer la population locale, pour éviter ce phénomène-là de nationalisme et de prise d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, notamment en voyant tout autour toutes les petites, enfin les îles autour de la Kanaky prennent leur indépendance.
Ok, donc là aujourd'hui on est sur du 60-40 à peu près en termes de pourcentage de population.
Oui, okay. C'est ça. Après, il y a eu le troisième référendum où il y a eu un boycott où les non-indépendantistes n'ont pas participé car pour nous, il y a eu un non-respect de l'État français où il y a une seconde fois où il n'est pas resté dans son impartialité. Notamment entre 2020 et 2021, il n'y a eu qu'un an. Normalement, dans les accords de Nouméa, ça prévoyait 2 ans. Et entre-temps, l'État français a sorti un document comme quoi si on devenait indépendant, la Calédonie, ben, on devenait un pays pauvre et on serait sous l'influence de la Chine. Voilà. Suite au troisième référendum, Emmanuel Macron s'est prononcé en disant que la Calédonie a décidé en 3 fois de rester dans la France. Déjà d'une, il n'a pas respecté les accords de Nouméa, qui prévoyaient que si il y a eu 3 non, ben on reprenait cette discussion tripartitaire avec les loyalistes, l'État et les indépendantistes pour voir ce que la Calédonie devient. Mais le processus de décolonisation, il reste toujours intact. Et là, il y a eu ce non-respect-là. Suite à cela, en 2022, il y a eu Sonia Baquès, qui est la chef de file des loyalistes, qui a été nommée pour être élue au gouvernement en tant que qui gérait la citoyenneté française. Avec Monsieur Mesdorf, qui était un ancien, qui était à l'Assemblée, ils ont poussé ce projet de loi de dégel du corps électoral. Qu'est-ce que le dégel du corps électoral ? Pour nous, c'était quelque chose de... Ça veut dire que tout le monde en Calédonie pouvait venir voter sous 10 ans. Mais nous, on veut pas ça. Ça veut dire que ça va nous noyer, nous, l'électorat local. Et du coup, il y a une cellule qui a été créée, la CCAT, la cellule de coordination terrain, en fin novembre 2023, qu'est-ce qu'elle a fait la CCAT ? Elle a sensibilisé les jeunes, parce qu'il faut savoir qu'en Calédonie, on n'apprend pas l'histoire de notre pays, on apprend l'histoire de la France. Ça veut dire que pour nous, c'est un peu une histoire de non-dit. Ça veut dire tout ce qui s'est passé dans les périodes des événements de 84 à 88, on n'entend pas parler à l'école. On ne sait pas, la nouvelle génération ne savait pas qui était Éloi Machoro, Jean-Marie Tjibaou et tous nos martyrs kanaks. Donc voilà, ils ont beaucoup aller sensibiliser les jeunes dans les quartiers en prenant conscience de la loi qui allait passer. Du coup, il y a une première mobilisation qui a été faite en novembre où il n'y a eu que 3000 personnes. Il y a une seconde mobilisation en début avril de cette année où on était à peu près 15 000 personnes. Et une troisième mobilisation où on était 50 000 personnes. Ça représente 1 personne sur 4 en Nouvelle-Calédonie. Mais ça n'a rien changé. La loi est passée à l'Assemblée. Elle a continué son parcours. Elle a été votée à l'Assemblée. Et le soir du vote à l'Assemblée, c'est là que les militants indépendantistes et calédoniens ont été pacifiquement sur les barrages. Mais suite à la décision du ministre de l'Intérieur, qui était Gérald Darmanin, et Louis Lefranc, qui était le haut-commissariat, il fallait chasser ces manifestations-là. Et du coup, ils ont tiré à coups de flashball à bout portant sur les manifestants, et c'est là que qu'il y a eu l'escalade de violence. Il y a eu tout d'abord 2 premiers morts assassinés par la milice.
Dis la milice, c'est les loyalistes.
Les loyalistes.
Ouais. Ça, ils sont organisés aussi, armés pour certains, pour lutter contre les indépendantistes.
Oui. Ouais. Notamment, dans leur maison, ils ont été retrouvés des anciennes armes soviétiques qui ont été utilisées pour tuer l'un des 2 premiers morts. Sur les barrages.
Ouais.
C'est ça. Ensuite de ça, la France a envoyé des troupes, 3500 personnes, ça veut dire CRS et gendarmes, pour essayer de canaliser tout ça, tout en par la force, mais ça n'a fait que d'embraser le territoire, et notamment des interpellations massives, et des déportations sur la métropole. Avec l'envoi de l'armée, il y a eu 9 morts à l'époque. Suite à cela, le président a fait une visite en Nouvelle-Calédonie, mais rien n'a changé.
Ok, alors il y a eu ces derniers jours des nouveaux affrontements, des nouveaux morts. Qu'est-ce qu'a relancé un peu la dynamique, puisque cette dynamique, elle a quand même pris, tu l'as raconté, une très grande ampleur il y a quelques mois, et puis ça s'était un peu calmé probablement par la fatigue et la répression de l'État colonial français. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ?
En fait, avec les JO, le regard de avec les JO et la destitution de l'Assemblée, les regards sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie est plus devenu important. Mais qu'on appelle ça. Ça c'est pas, ça c'est, la situation ne s'est pas calmée là-bas. Je vais laisser ma collègue dire un peu plus.
Comme vous voulez, l'un des deux. Ouais, ouais, c'est pas grave, mais bah vas-y si tu veux. Vas-y, elle te dit d'y aller, vas-y, si tu peux juste nous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers jours.
Bah, du coup, bah, en fait, après la décision de l'Assemblée, il y a eu toujours de la mobilisation de forces armées, notamment à la sortie des quartiers sur la province sud, où il y a eu toujours des contrôles sur le faciès des personnes non blanches. Et on peut pas dire que qu'on appelle cela, cette violence, cette répression-là, elle s'était calmée. C'est juste parce que le regard n'était pas tourné sur la Calédonie.
Et là, tout dernièrement, il y a eu des nouveaux morts. En tout cas, on a entendu un peu parler, si on s'y intéresse, parce qu'effectivement, les médias nationaux en parlent très peu. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, et puis après, on passera au point suivant.
Oui, bonsoir. Récemment, il y a eu deux morts ce 19 septembre à Saint-Louis. C'est vrai que dans les médias, on parle d'affrontements, mais les témoins oculaires rapportent plutôt une intervention des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, ces morts ont été retrouvés par la famille. Et voilà, donc ils ont été retrouvés morts, ils ont été tués à Saint-Louis. Saint-Louis qui actuellement vit une espèce de semi-apartheid. Ça fait 4 mois qu'ils vivent un apartheid, on va dire, parce qu'ils connaissent des checkpoints militaires, des contrôles d'identité. Même les enfants qui se rendent à l'école doivent justifier d'une pièce d'identité. Il y a ce vendredi 4 octobre où ils ont été autorisés à sortir pour aller faire des courses, mais à part ça, ils ne peuvent pas sortir librement. On a des témoignages comme quoi ils souffrent d'insécurité et aussi de faim à l'intérieur de la tribu. Ils font aussi l'objet de réseaux et d'électricité coupés. Donc voilà, on peut parler d'apartheid, et même si certains parlent de retour au calme, on peut juste dire que ce sont les méthodes qui ont changé pour paraître moins répressifs et moins violents, mais la répression est toujours là.
Très bien, merci pour ce point sur ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu aussi, parce qu'il nous reste quelques minutes d'émission, et évidemment pour nous c'est important de parler des prisonniers, notamment de la CCAT, qui sont sur le territoire métropolitain. Combien sont-ils, où en est la situation judiciaire, le périple judiciaire dans lesquels ils sont? On sait aussi par exemple que il y a un camarade de la CCAT qui est incarcéré à Villefranche. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus?
Alors, il y a 3 types, entre guillemets, de prisonniers et prisonnières venant de Kanaky. Donc, les premiers, c'est les prisonniers de droit commun. C'est les personnes qui ont été arrêtées avant les révoltes et qui n'ont pas été arrêtées pour la lutte indépendantiste. Ensuite, les deux autres types, entre guillemets, de prisonniers et prisonnières, c'est des prisonniers et prisonnières politiques. Donc, il y a les militantes indépendantistes qui ont été arrêtées lors de mobilisations. Il y en a beaucoup qui ont été déportées ici dans la France hexagonale. Et en fait, on n'a pas le nombre précis de ces prisonniers et prisonnières-là. Et on ne sait pas où ils sont détenus. Et donc, en fait, on recherche ces informations-là. Donc, au niveau du recensement, on est en train de le faire ici en France. Et ensuite, il y a les prisonniers et prisonnières de la CCAT, donc la cellule de coordination des actions de terrain. Donc, ils ont des chefs d'inculpation fous, comme association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit, viol avec armes et en bande organisée, destruction de biens par incendie en bande organisée, complicité par instigation de crimes de meurtre et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ils ont une charge en fait énorme. On voulait préciser aussi que ces membres de la CCAT ont été déportés ici dans la France hexagonale, et ça c'est une stratégie coloniale que la France avait déjà fait et qu'elle répète encore une fois. La France cherche à faire taire la lutte indépendantiste, également financièrement, parce qu'il y a des membres de la famille de certains prisonniers et prisonnières qui ont dépensé en fait énormément d'argent, parce que pour venir ici en France soutenir la famille, il faut payer le billet d'avion qui coûte extrêmement cher. Il y a aussi les frais d'avocat derrière. Donc voilà, il y a tout ça. Et comme tu l'as dit, il y a un membre de la CCAT qui est ici présent à Villefranche, en prison. Donc voilà, nous aussi, on lui vient en aide. Et je voulais avoir un dernier mot aussi sur le fait qu'en fait, actuellement, le dossier des membres de la CCAT est géré par le tribunal de Nouméa. Le problème, c'est que le tribunal de Nouméa est partial. Il ne respecte pas cette impartialité. Le procureur de Nouméa, M. Dupas, il n'a cessé de charger publiquement les membres de la CCAT. Il fait que de répéter que tous les dégâts qui sont commis sont à cause des membres de la CCAT. Donc là, la justice, en fait, n'est pas partiale. Il y a une demande qui a été faite pour que le dossier des membres de la CCAT soit dépaysé, pour qu'il soit géré par un tribunal en France. Et cette demande a été rejetée.
Très bien, merci. Pour finir, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à Lyon comment soutenir ? Est-ce que vous avez des événements prochains sur lesquels on pourrait aller ? Est-ce que on peut vous suivre sur des pages Facebook, Insta, sur les réseaux sociaux et même soutenir financièrement ?
Oui, alors on a deux prochaines actions qui sont prévues. La prochaine, c'est le vendredi 18 octobre à 18h, place de la Comédie, donc à côté de l'Opéra. Ça sera un rassemblement. Et la deuxième action sera le lundi 18 novembre. Ça, c'est une date clé dans l'histoire de la lutte indépendantiste. Pour nous suivre, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Et donc, notre nom, c'est MKF-Lyon. Et sur Facebook, notre page s'appelle MKF Lyon.
Alors, on les remettra sur nos blogs pour que les personnes puissent retrouver ce nom. Ça, c'est sûr. Bah écoutez, de toute façon, on est en train de dépasser légèrement l'heure de fin, mais c'est pas très grave, il y a personne après nous. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va évidemment continuer à suivre de près ce qui se passe là-bas et avec vous ici. Et on continuera à diffuser des informations, bien sûr, là-dessus. Merci à tous les trois.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci. On se retrouve le 18 octobre, place de la Comédie.
Exactement. Bien dit. Justement, puisqu'on est sur les dates, on va passer à notre traditionnel agenda militant de la semaine.
Oui, et toujours sur l'anticolonialisme. Donc cette semaine, il y a tout un tas d'événements prévus dans le cadre de la campagne En Palestine, tout n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Donc demain, mardi à 18h30, il y a la projection du film The Lab au CCO La Rayonne sur la vente d'armes. Jeudi 10 octobre à 19h, projection du film La Pierre de Salomon au Centre Social Bonne Foi, 5 rue Bonne Foi à Lyon 3e. Vendredi 11 octobre à 18h, il y a une conférence sur le thème « Que reste-t-il de l'archéologie à Gaza ?» à l'IFCM qui se situe 52 rue Guillaume Paradin à Lyon 8e. Et puis samedi 12 à 15h, il y aura une grande manifestation en solidarité avec le peuple palestinien Place Bellecour. Et consigne est donnée de ramener des chaussures. Donc ça, tout pardon, ça, c'est dans le cadre de la campagne En Palestine, tout n'a pas commencé le 7 octobre 2023, organisée par le collectif de 69 de soutien à la Palestine. Et puis, d'autres événements cette semaine. Mercredi à 18h, il y aura un hommage à Claire Osias, historienne et militante libertaire, autrice d'un livre anarchiste entre deux révolutions, 1919-1939. C'est au Cédra 27 Montée-Saint-Sébastien à Lyon 1er. Et vendredi à 18h, il y a une réunion publique sur la vidéosurveillance algorithmique organisée par la Quadrature du Net. Ce sera à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu à Lyon 7e. C'est la fin de l'émission, comme vous pouvez le constater, je n'arrive plus à articuler.
Voilà, et donc on vous dit à la semaine prochaine à la radio ou dans la rue cette semaine. Ciao, on vous laisse avec les bandes continues.